Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Christostalis. Chers amis, deuxième dimanche du Grand Carême aujourd'hui, période de préparation de cheminement vers la fête de Pâques. Pour parler du Grand Carême, nous recevons un moine atonite, lié au moine Macaire du monastère de Simonos-Petra. Père Macaire, cette émission s'intitule « Grand Carême et monachisme », deux notions qu'il faut peut-être définir avant de commencer notre émission. Le Grand Carême d'abord.
Le Grand Carême, dans l'orthodoxie, n'est pas considéré comme une période sombre et triste et sur laquelle on est un peu effrayé de l'approcher. Mais au contraire, dans la tradition de l'Église orthodoxe, c'est considéré comme le printemps des âmes. Une période de joie, de ressourcement, de renouveau de l'âme, justement dans la perspective du soleil de justice et du triomphe de la lumière le jour de Pâques. Donc toute la période du carême est vécue par les fidèles orthodoxes et en particulier par les moines dans cette perspective de Pâques et donc de la lumière qui va jaillir du tombeau.
Rappelons quand même que le grand carême est la période qui précède Pâques et qu'il est composé de 5 semaines suivies de la semaine sainte et précédée de 3 semaines où on est déjà dans le triode, c'est-à-dire une période par étapes. Où le cheminement vers Pâques est vraiment progressif. Alors, vous dites que dans tout cela, vous voyez un printemps, enfin, tout moine orthodoxe sent un printemps, une joie. Et comme vous dites très bien, d'habitude, le carême est lié à quelque chose de triste, à quelque chose de presque oppressif un peu. Alors, où peut-on trouver dans cette période quand même de recueillement, de jeûne, on va parler plus tard du jeûne, il y a quand même des contraintes, si vous voulez, qui sont indiquées, ou en tout cas, elles sont présentées comme telles, où voit-on cette joie?
Cette joie, c'est la joie de l'attente et de la préparation. Comme tout événement dans l'histoire sainte, dans l'histoire de la Bible et dans l'histoire humaine, toute intervention de Dieu dans l'histoire a été précédée par une période de préparation. Et donc, avant la révélation de la loi à Moïse au mont Sinaï, Dieu a demandé à Moïse de jeûner pendant 40 jours afin de se préparer à cette manifestation de Dieu, à cette révélation de Dieu. Eh bien, chaque année, l'Église propose aux fidèles de renouveler cette période de préparation par une attente instante et qui s'exprime par une attente non seulement de l'âme, mais du corps aussi. Et donc, le corps a besoin, et l'être humain comme entité, si vous voulez, psychosomatique, a besoin de sentir cette attente aussi corporellement. Et donc le jeûne que l'Église a prescrit depuis son origine n'a pas ce caractère de châtiment ou d'opposition, si vous voulez, au plaisir du corps, mais de disposer l'entité humaine psychosomatique à cette révélation de Dieu qui sera chaque année, le jour de Pâques, comme révélation du triomphe du Christ sur la mort et sur toute division de la nature humaine.
Donc une période de 40 jours, c'est plus que 5 semaines d'ailleurs, c'est 5 semaines, presque une sixième, et puis on est au samedi de Lazare, puis à la semaine sainte. Cette joie s'organise quand même, l'Église donne des références avec la prière quotidienne qui devient beaucoup plus assidue. Enfin, on est appelé à prier plus pendant cette période et à se priver de certaines choses, et là on en arrive au jeûne, qui veut dire quand même une vie, je dirais, pour quelqu'un qui est dans la vie civile, une vie pas normale. Alors, comment peut-on associer tout cela?
Justement, dans cette notion, si vous voulez, de préparation et de séparation du monde. Et nous avons oublié de rappeler que le jeûne des 40 jours, donc du carême aujourd'hui, n'est que la continuation, la répétition, l'actualisation de la préparation des catéchumènes dans l'Église ancienne au baptême, qui s'accomplissait uniquement le jour de Pâques. Et donc, les catéchumènes qui s'étaient préparés pendant des années à être baptisés, et pendant les 40 jours avant Pâques, se préparaient de manière plus instante, et l'Église leur procurait une catéchèse plus intense pour se préparer au baptême. Et donc, avec une grande sagesse, l'Église a continué cet usage, même pour les personnes qui ont été déjà baptisées, pour actualiser cette expérience de l'attente avant le baptême. Et donc, chaque année, l'Église nous propose de renouveler cette attente, et donc à la fois dans notre âme, par une catéchèse que nous fournit l'Église par les offices, et par le jeûne, qui est donc une fin, mais une fin pas seulement corporelle, mais une fin de Dieu. Et donc la période du carême est une occasion unique pour chaque fidèle, même lorsqu'il était baptisé, lorsqu'il était bébé, de ressentir cette expérience merveilleuse du baptême, du renouveau, d'être mourir avec le Christ pour ressusciter avec le Christ et devenir un homme nouveau. Et donc, normalement, pour un chrétien qui vit consciemment sa vie chrétienne, chaque Pâques, chaque carême doit être différent.
Oui, mais il y a tout de même dans la notion de jeûne une notion de privation de quelque chose.
Cette privation, mais elle est privation des plaisirs corporels humains, disons, matériels, terrestres et donc mortels, pour recevoir une nourriture qui est immortelle. Donc il n'y a pas de jeûne sans compensation spirituelle. Le jeûne n'est pas une privation, mais il est un. On se détourne du monde terrestre pour se tourner vers la nourriture céleste. Non seulement comme attente, comme je le disais précédemment, mais déjà au moment même où on jeûne, on sent déjà la présence, où on donne la prééminence à des valeurs spirituelles. C'est un choix libre. L'Église nous prescrit certaines règles de jeûne, donc les fidèles normalement doivent observer, mais chacun doit se donner sa propre discipline afin d'un choix libre qui est de préférer à la nourriture matérielle la nourriture spirituelle.
Nous allons maintenant parler du monachisme, notion que vous avez voulu, c'est vous qui avez choisi ce titre, Grand Carême et monachisme, donc vous avez voulu associer cette notion à celle du Grand Carême. Alors d'abord le monachisme, et puis je rappelle, comme je l'ai dit au début, que vous êtes moine à un lieu qui est par excellence, si vous voulez, l'espace des moines, le mot Athos, dans la conscience de tout orthodoxe et au-delà même du monde orthodoxe. Alors d'abord le monachisme, comment le définissez-vous ?
Le monachisme, et c'est pour ça que c'est lié au carême, le monachisme n'est pas un ordre distinct dans la conscience orthodoxe, dans la tradition de l'Église orthoxe. Il n'est pas marginal, mais il est au centre de la vie de l'Église. Et la période du carême, chaque année, pour tous les fidèles, mariés avec leurs occupations, leurs responsabilités sociales et familiales, est une occasion un peu de devenir moine. C'est-à-dire de se dédier exclusivement au culte de Dieu et à regarder vers l'avenir. Donc, les moines et le monachisme dans l'Église orthodoxe sont une sorte de ministère prophétique, comme les prophètes de l'Ancien Testament, qui rappelaient l'ordre des valeurs et qu'il fallait que les fidèles de Dieu, donc même avant la révélation du Christ, étaient appelés à préférer aux valeurs du monde les valeurs, la loi de Dieu, et donc se priver, mais c'est une privation qui est une joie parce qu'on sait qu'on sera immédiatement rétribué par une relation plus intime et plus intense avec Dieu. Donc, le rôle du monachisme dans l'Église orthodoxe, c'est d'être un signe visible, mais vivant, pas simplement théorique, de l'ordre des valeurs. Et que tout chrétien, même s'il est engagé dans les liens du mariage, est appelé au moins certaines périodes de l'année à se donner exclusivement à Dieu. Et donc les moines, ils sont dans un carême permanent et ils ont comme ministère d'être, comme disaient les anciens pères, séparés de tout pour être unis à tous.
Lors d'une conversation que nous avons eue récemment, en parlant justement du monachisme et en parlant de son histoire, évidemment il est directement lié aux moines du désert, si on remonte vraiment dans l'histoire. Et puis vous m'avez dit, nous sommes tous appelés, et donc tous les fidèles, à un moment donné, de rentrer chacun dans son propre désert. Qu'entendez-vous par là ?
Le désert, ce n'est pas le désert physique des pierres, etc. C'est le désert d'absence de réalité temporaire pour s'occuper uniquement des réalités éternelles de la présence de Dieu. Et donc, dans la Bible, le désert, c'est le lieu, non pas de l'absence, mais de l'exclusivité de la présence de Dieu. Et donc, toutes les grandes révélations. Le Christ avance, non seulement Moïse au Sinaï, mais le Christ avant son ministère public, s'est retiré 40 jours au désert. Et donc, notre carême et la vie monastique pour les moines qui vivent un carême permanent, c'est cette consécration complète et définitive à Dieu de manière exclusive. Donc le désert est le lieu, non pas de l'absence, mais de la présence et de la révélation de Dieu. Et le désert intérieur, c'est ce retour vers soi-même, retour au fond de son cœur, pour y trouver non pas une absence, mais une présence, et la présence de Dieu.
Et comment le faire lorsqu'on habite vraiment dans la ville, quand on est dans le monde, quand on travaille, quand on a tellement de soucis de la vie quotidienne? Comment peut-on trouver son propre désert?
Justement, c'est là la sagesse de l'Église. Dès lors que ce n'est pas possible à cause des soucis et des obligations sociales et familiales, d'au moins certaines périodes de l'année ou certains jours de la semaine, dire réservez-vous au moins un certain temps, prenez une certaine distance vis-à-vis de votre engagement dans le monde. Et donc, ce n'est pas une obligation. Et ce qui était merveilleux dans la tradition orthodoxe, c'est que les règles apparemment de jeûne sont strictes et restent strictes. L'application, beaucoup de gens disent, mais les orthodoxes, ils vous parlent du jeûne, ils ne jeûnent pas eux-mêmes. Certes, la plupart des orthodoxes n'appliquent pas ces règles, mais ils savent qu'il y a ces règles. Et personne ne songe à les modifier. Ça reste un critère, et un critère qui a une fonction dynamique. C'est-à-dire, on est toujours remis en cause, parce qu'on sait que les saints-pères, les saints, ont vécu comme ça. Le Christ nous enseigne cela. Et donc, aujourd'hui, je ne peux pas les appliquer, mais peut-être demain, je les appliquerai. Et donc c'est ça, ce dynamisme de la vie chrétienne que nous offre la tradition orthodoxe, qui est une grande sagesse, qui n'est pas du tout une nostalgie du passé byzantin, etc. Il y a une grande sagesse pastorale et psychologique derrière.
Nous allons maintenant faire une pause en prière, comme vous le demandez, et on va même nous transporter au cœur de votre monastère, si je puis dire, celui de Simon Ospetra, parce qu'on va entendre un chant liturgique tiré de la liturgie du Grand Carême. Et c'est le chœur donc du monastère de Simon Ospetra qui chante. Et vous avez même voulu que ce soit un chant, comme vous avez dit, fort, dynamique, et pas quelque chose de plaintif, je dirais, ou contemplatif. Alors, on l'écoute peut-être, et après, vous allez le commenter. Et voilà, nous étions donc dans l'église, peut-être dans le catholicole, de Simon Ospetra, avec ce chœur des moines du monastère, et pour un chant donc tiré de la liturgie du Grand Carême. On revient à cela et à la manière de concevoir d'abord le chant comme expression de prière, en général, et puis en particulier pendant le Grand Carême.
Oui, ce chant qui était viril et dynamique, ça exprime, c'est une exhortation continuelle au combat spirituel. Donc, nous avons parlé du carême et du jeûne comme préparation, mais aussi comme période de combat. Donc, vous vous souvenez que quand le Christ s'est retiré au désert, c'était le moment des tentations contre Satan, là où il a exprimé la volonté de sa nature humaine de résister contre les tentations. Donc et tous les hymnes du carême orthodoxe nous exhortent au combat. Et askésis en grec, donc ascèse, ça n'a pas le sens ascèse comme l'entend en français, simplement d'exercice, exercice sportif. Et donc le carême est un temps d'exercice, de combat spirituel, contre le démon, donc le carême, mais contre tout ce qui est en nous de l'étranger, du vieil homme. Et donc les chants, pendant les offices, nous exhortent à ce combat spirituel que chacun doit mener contre le vieil homme qui vit encore en lui. Et comme saint Paul le dit, tout homme est déchiré entre le vieil homme et l'homme nouveau qui est né en lui par le baptême. Et donc, cette période extraordinaire du Grand Carême, c'est une période de combat spirituel, chacun en lui-même, contre le vieil homme, pour faire grandir en lui l'homme nouveau.
Je reviens une seconde au chant, en particulier le chant byzantin, pour deux raisons. D'abord, évidemment, c'est du chant monodique, en fait, qui est assez, en tout cas pas harmonisé dans le sens qu'on entend en Occident. Donc, il sonne un peu étrangement, si je puis dire. Les oreilles occidentales ne sont pas toujours préparées à cela. Et puis, évidemment, pour bien chanter le chant byzantin, il faut une longue préparation. Hein, c'est pas facile. Alors, deux choses. D'abord, est-ce qu'il faut vraiment passer par une école, si je puis dire, de musique, de chant, pour pouvoir exprimer sa prière, exprimer s'adresser à Dieu? Et deuxièmement, comment peut-on trouver à travers ce chant qui invite tout de même à une notion du temps carrément différente, hein, si on est en dehors du temps avec cela, comment peut-on, lorsqu'on vit en Occident, trouver là-dedans le moyen de se rapprocher de Dieu?
Justement, de sentir que l'office, le chant, mais c'est une partie de l'office, parce que le chant n'est jamais isolé comme musique, si vous voulez, il fait partie des mouvements liturgiques, des vêtements liturgiques, des cierges qu'on allume, qu'on éteint à certains moments de l'office, des mouvements. Un visiteur récemment nous disait « Mais c'est extraordinaire, votre office, c'est une chorégraphie !» Et donc, il y a tout un mouvement, vous voulez, et c'est tout un monde céleste qui se présente en mouvement. Non pas une icône figée, si vous voulez, mais c'est une icône en mouvement. Et une icône du royaume des cieux. Et donc, lorsque le fidèle orthodoxe assiste à l'office, non seulement dans le carême, mais dans toute l'année, il vient à l'église, non pas pour prier, mais pour se tenir devant Dieu qui se manifeste à lui. Et le chant exprime, si vous voulez, cette dimension transfigurée de l'existence humaine qui ne peut s'exprimer que par le chant et non pas par la parole dite. Si vous voulez. Et donc, toute lecture ou tout chant doit être ou modulée ou psalmodiée, mais pour avoir cette sorte de dimension de transfiguration de la nature humaine.
Pour terminer, donc, puisque vous avez déjà abordé ce sujet, on va entrer dans le monde, si je puis dire, atonite, dans l'attente de Pâques. Comment vit-on le Grand Carême sur la Sainte Montagne?
On vit sur la Sainte Montagne le Grand Carême comme une fête. Et le jour de l'entrée dans le Carême, on fait donc un office particulier pour se demander pardon, comme dans toutes les églises orthodoxes. Et on commence le Grand Carême par 3 jours de jeûne complet, de nourriture et de boisson. Donc le 3e jour, on est épuisé, on tibute un peu, mais on s'est éprouvé par donner un grand coup, si vous voulez, pour bien commencer. Et après, tout le reste du carême, les horaires sont différents, les offices sont différents, le chant est différent. Il y a une autre atmosphère qui nous met justement dans cette ambiance de lutte, de combat spirituel, mais toujours illuminé déjà par la lumière de Pâques.
Donc, avant de terminer, quelle est la parole, le conseil du moine, du prêtre aussi, vers les fidèles? Que faut-il faire? Bon, on a parlé de joie, on a parlé d'attente, etc. Mais comment, de manière concrète, faut-il organiser ça dans sa vie quotidienne?
Je crois que chacun, à quelque niveau qu'il soit, à quelque condition de vie qu'il soit, profiter de l'occasion, on dit en grec « kéros », donc un moment exceptionnel, un moment particulier dans la vie, de séparer un peu la période du carême du temps ordinaire. Et l'Église, comme une mère compatissante, elle n'exige pas qu'on observe tous les règles qu'on oblige dans les monastères, mais que chacun, à son degré où il est, puisse faire du carême une période différente. Avec le jeûne, avec une abstence. Par exemple, le jeûne, ce n'est pas seulement le jeûne des aliments. Ça peut jeûner de regarder la télévision ou de faire des distractions mondaines. Et de marquer, si vous voulez, cette différence dans le temps. Afin de sentir que c'est une période où on se prépare, où on donne justement un peu plus de temps à la lecture, un peu plus de temps à la prière, même de manière minime. Donc c'est possible pour tout le monde. Simplement, il suffit de le vouloir. Il suffit d'avoir conscience que l'Église nous offre cette possibilité, ce temps donc, de 5-6 semaines, d'avoir comme c'est une différente atmosphère dans notre vie. Et donc ça, c'est accessible à tout le monde. On ne peut pas avoir d'exigence, mais chacun peut, selon son choix libre, de dire, voilà, pendant ce carême, cette année, je vais me priver de telle ou telle chose pour pouvoir me préparer à recevoir le Christ.
Et les lectures, alors? Quelles sont les lectures, conseiller? C'est la liturgie, bien sûr. Est-ce qu'il y a autre chose?
Lorsqu'on peut avoir la traduction du livre liturgique, le triode de la période du carême, donc c'est une catéchèse très riche, c'est un des livres liturgiques les plus riches de l'Église orthodoxe, ou choisir un livre spirituel, d'un livre d'un père spirituel, d'un père de l'Église, qu'on va consacrer justement pour cette période de carême, de lire ce livre. Et d'en profiter, d'en faire un objet de prière, de méditation, quelque chose de séparé, qu'on ne lira pas à d'autres périodes, mais qu'à cette période, on va dire, voilà, on va se choisir cette lecture spirituelle ou d'un passage de la Bible, mais un auteur ascétique maintenant, ou une vie de saint, etc., chacun selon son choix et son... C'est une occasion inespérée.
Écoutez, nous restons avec ce conseil. Et puis, l'idée aussi qu'il y a au Mont Athos, ces monastères, bon, bien sûr, ce monde particulier, je dirais, qui est un immense monastère, en fait, et qu'il y a toutes ces communautés qui prient pour nous. Il faut aussi se rappeler cette relation qu'il y a entre les fidèles, même s'ils se trouvent loin les uns des autres, et de la prière qui, quand même, s'adresse à Dieu et qui couvre l'ensemble de l'Église. C'est très important. Alors, Père Macaire, merci beaucoup. Je rappelle que nous serons ensemble de nouveau dans 15 jours pour parler de la fête de l'Annonciation. Et avant de terminer, je voulais vous indiquer qu'il y aura cette année le 14e Congrès orthodoxe d'Europe occidentale qui aura lieu du 25 au 28 mai 2012, donc dans 2 mois, à Strasbourg. Il est organisé par la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale. Et cette fois-ci, le thème est « La vérité vous rendra libre », tiré de l'Évangile de Jean, bien sûr, avec des interventions de l'hiéromoine Siméon, moine près du Mans, que nous avons souvent invité ici, du philosophe grec Christos Yannaras et de Georges Naas du Liban. Donc, pour ceux qui veulent s'inscrire ou davantage de renseignements, un contact, une adresse donc mail, fraternite.orthodoxe@gmail.com. Je répète, fraternite.orthodoxe@gmail.com. Voilà, c'est donc comme ça que nous terminons cette émission. Notre prochaine émission, donc, dimanche 25 mars, toujours avec le Père Macaire pour parler de l'Annonciation. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Chrysostalis. Chargée de réalisation, Sylvie Migaud. Prise de son, Michel Mestre. Notre adresse, Orthodoxie, Radio France, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75-220 Paris Sedex 16. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr.